Il y a des nouveautés en termes de traitement. On en a beaucoup entendu parler et on voudrait bien que vous nous décryptiez tout cela.
Eh bien, on va en parler. Voilà, donc si vous voulez, il y avait deux parties. La partie sur les lésions. Maintenant, on va parler de l'actualité de la maladie d'Alzheimer. Mais enfin, l'actualité, c'est un peu ce dont on a déjà parlé avant. Alors, l'actualité de la recherche, si vous voulez, ça va tourner autour de la thérapeutique et autour de cette question du traitement. Il y a deux, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut dissocier, il faut séparer clairement deux approches thérapeutiques. Il y a ce qu'on appelle le traitement symptomatique et le traitement physiopathologique. Le traitement symptomatique, si vous voulez, c'est, prenons le cas, par exemple, d'une rage de dents. Vous avez mal à la dent. Bon, il y a deux façons de faire. Soit on vous traite le symptôme, et vous prenez un antalgique, et vous n'avez plus mal à la dent, mais on n'aura pas soigné la cause de la douleur. Soit on arrache la dent, ou on la plombe, ou je ne sais quoi. Moyennant quoi, là, on traite la cause. Donc, par rapport à la maladie d'Alzheimer, il y a deux approches possibles. Il y a le traitement symptomatique, c'est ce qui a été initié. Je vais pas revenir là-dessus, vous en avez entendu parler, de ces traitements qui ont été finalement déremboursés par le ministère, qui avaient un effet symptomatique modéré, modeste. Bon, n'en parlons pas, car c'est pas l'enjeu dans la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui entraîne une désorganisation d'un grand nombre de neurones, et donc on ne peut pas espérer, avec une seule action sur un neuromédiateur, rétablir l'ensemble du fonctionnement cognitif. Donc la réponse thérapeutique optimale ne peut passer que par un traitement physiopathologique, c'est-à-dire un traitement qui vise, si vous voulez, à traiter le principe de la mort neuronale dans cette maladie. Vous voyez. Donc c'est un enjeu très, très complexe. Et je vous ai parlé tout à l'heure des lésions amyloïdes. Eh bien, la première hypothèse sur laquelle on a travaillé, c'est de développer ce qu'on appelle des anti-amyloïdes, c'est-à-dire des médicaments, des anticorps monoclonaux qui vont venir dégrader la protéine amyloïde, qui va venir désorganiser ces amas de substances amyloïdes que je vous ai montré sur la première diapositive. D'accord ? Et simplement pour vous montrer que ces médicaments agissent, et ils agissent très bien sur les lésions, ils sont très efficaces sur les lésions. Prenez par exemple à droite un médicament qui s'appelle l'aducanumab, et bien vous voyez que à chaque fois, vers le bas, c'est l'intensité de la baisse des lésions amyloïdes dans le cerveau. Je vous rappelle que vous m'avez suivi, les lésions amyloïdes, on les mesure, vous avez vu, hein, par un PET, un PET amyloïde. Vous vous rappelez les images, vous voyez, qu'on a montrées, ça peut être bleu ou rouge, vous vous rappelez l'image du cerveau. Donc on peut voir ces lésions amyloïdes. Eh bien, sous l'effet du traitement, on montre qu'il y a une diminution des lésions amyloïdes. Regardez la dernière à droite, la ducanumab, et vous avez la diminution qui est en fonction de la dose, 1 mg, 3 mg, 6 mg, 10 mg. Donc plus la dose est élevée, plus la baisse est importante. Et quand c'est bleu, c'est 6 mois, quand c'est rouge, c'est 1 an. Donc ça veut dire que vous avez un effet dose et qu'avec ces médicaments, on arrive à diminuer la concentration des lésions dans le cerveau. Je vais vous en convaincre sur une autre image. Voilà, parce que sur l'image suivante, mais simplement pour vous dire, c'est que si on a un effet sur les lésions, malheureusement, on n'a pas d'effet sur les symptômes. Et quelle question ça pose? C'est une question fondamentale, c'est que peut-être que toutes les lésions dont je vous ai parlé n'ont rien à voir avec la maladie. Puisque je viens de vous montrer que on arrive à agir sur les lésions et qu'on n'a pas d'effet sur les symptômes. Donc c'est quand même très angoissant.
C'est d'ailleurs une des questions, là. On assiste à une remise en cause récente du rôle des plaques amyloïdes dans la maladie d'Alzheimer, alors que du coup, vos travaux s'inscrivent dans cette démarche. Effectivement, on va répondre à cette question.
Exactement, je ne sais pas qui a posé cette question, mais la question est excellente.
Bravo, Jean.
Ben oui, cher monsieur, elle est fondamentale, cette question. Il y avait une remise en question. Mais on revient sur cette remise en question, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la question est importante. Alors, une des explications possibles, c'est celle-là. C'est que, finalement, vous connaissez l'histoire, on cherche la clé perdue sous le lampadaire allumé. C'est-à-dire qu'on va là où là où on sait où il y a les lésions, mais peut-être que ce n'est pas les bonnes lésions. Et effectivement, c'était une des hypothèses. L'autre hypothèse, c'est que peut-être on a essayé ces médicaments chez des gens trop avancés dans leur maladie, trop dégradés, parce qu'à partir d'un certain moment, le processus évolue pour son propre compte. Et donc, on peut malheureusement arriver trop tard pour espérer pouvoir soit bloquer, soit même récupérer par rapport aux lésions. Donc, l'idée alternative était de dire qu'il faut peut-être traiter le plus tôt possible, traiter dès la phase, dès les premiers symptômes, peut-être même les lésions avant l'apparition des symptômes, d'être le plus précoce possible. Voyez. Et c'est là que l'approche qu'on avait proposée de dire, attendez, on peut reconnaître peut-être la maladie avant la démence, parce que ça, c'était des patients qui étaient étudiés alors qu'ils avaient le stade de démence, peut-être qu'avant la démence, dès les premiers symptômes de mémoire, peut-être que là, ça peut être intéressant. Et c'est un peu ce qui se passe. Parce que vous avez un premier travail qui a été publié il y a un an, on va dire, qui a montré que, alors maintenant vous êtes très au courant, vous voyez à gauche, sympathique complètement à gauche, vous avez l'évolution des patients sous placebo, et puis là à droite, vous avez l'effet des lésions sous l'effet du traitement. Et vous voyez qu'il y a une diminution des lésions qui est considérable sous l'effet du traitement. Et il y a 2 ans, ce médicament commence à pointer du doigt qu'il y a quand même une amélioration des symptômes. Et vous voyez, par rapport au placebo, vous avez une droite qui est significativement améliorée. Mais il y avait quand même une étude qui montrait pour la première fois, cher monsieur, un effet sur les symptômes. Donc, ça progresse. C'est-à-dire qu'on a un effet sur les lésions, ça c'est manifeste. Et on commençait à avoir quand même un effet sur les symptômes dans une des 2 études qui ont été réalisées. Donc on s'est dit, attention, ça devient intéressant. D'autant plus que tous les médicaments qui sont en développement ont cet effet dramatique, dans le sens anglais du terme, sur les lésions. Regardez, vous voyez, tous les médicaments en un an diminuent de près de 80% les lésions cérébrales. Qui est quand même un espoir, là, quand même un espoir important. Moi je trouve enfin, que ces résultats sont extrêmement, extrêmement enthousiasmants. Et le 15 septembre de cette année, on vient d'avoir la confirmation que le médicament qui s'appelle le lecanumab, celui qui est en bleu, à gauche, et qui baisse de façon très importante les lésions, ça y est, on a un deuxième médicament depuis le 25 septembre, ou le 5 septembre, je sais plus, enfin c'est au mois de septembre, le laboratoire Eisai vient de nous annoncer que sur des patients relativement débutants, ils avaient un effet positif sur tous les symptômes, et sur tous les critères secondaires. Donc ça veut dire que ça y est, et que le résultat était très significatif, très, très puissant. Alors, la marge d'effet est faible, mais ça veut dire quand c'est puissant, c'est-à-dire que tous les patients en ont bénéficié, même si la marge d'effet n'est pas très importante. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va révolutionner le tableau de nos patients.
Mais quand même, si on a autant parlé de cette étude, c'est d'abord parce que c'est une grande étude, plus de 1700 personnes suivies, et parce qu'elle a été très bien menée, elle n'était pas contestable scientifiquement. Exactement. Et ça, c'est une vraie source d'espoir.
Exactement, vous avez absolument raison. C'est une étude, cette fois-ci, très bien conduite et qui donne des résultats qui sont très clairs. C'est-à-dire qu'on est en train, si vous voulez, c'est la pelote, on est en train de tirer le fil. On a, pour la première fois, alors on a des médicaments qui agissent sur les lésions, et pour la première fois, ça s'accompagne, la deuxième fois, je dirais, d'une amélioration sur les symptômes. Donc on est relativement confiant, surtout, si vous voulez, ça valide, cher monsieur, ça valide quand même la cascade amyloïde. Pour moi, ça valide la cascade amyloïde. Cette cascade a été remise en question, vous avez raison, à la suite de l'inefficacité apparente de ces médicaments. Mais comme ils commencent maintenant à être positifs, ça valide quand même cette cascade selon laquelle, si vous voulez, ce sont les lésions amyloïdes qui déclencheraient l'explosion de la pathologie tau qui serait responsable de l'apparition des symptômes. Et chez les malades traités par ce médicament, on observe 2 choses. D'abord, on observe une diminution de la concentration de la tau dans les liquides céphalo-rachidiens. Donc, il y a un effet sur la tau et il commence à y avoir un effet sur les symptômes. Tout ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu de la recherche, là, hein, mais vous voyez, les choses avancent de façon extrêmement, extrêmement encourageante.
C'est peut-être une réponse à une des interventions qui dit « Vos dernières découvertes montrent donc que les lésions n'entraînent pas forcément de symptômes, mais du coup, à quoi sert le dépistage ?» Donc, je pense que là, vous venez d'y répondre.
Voilà, alors, évidemment, et c'est exactement ça. Vous voyez, je reprends cette slide, car si on accepte l'idée que les lésions précèdent la survenue des symptômes, évidemment, vous allez me dire, mais alors à ce moment-là, il faut utiliser ces médicaments avant les symptômes, puisque ça va nettoyer le cerveau. Donc, on n'aura plus l'apparition de la maladie. Et c'est l'enjeu aujourd'hui. C'est l'enjeu, sauf que, je vous le rappelle, le fait d'avoir des lésions ne veut pas dire qu'on aura la maladie. Vous voyez ? Donc, ça devient très subtil. Vous voyez, on est à un moment de l'histoire où on a peut-être un outil qui est remarquablement puissant, qui pourrait être très intéressant à donner à un moment où les gens n'ont pas encore la maladie, mais où ils ont les lésions, reste à savoir si ils vont développer la maladie. Et c'est ça l'enjeu scientifique du moment. On va en revenir à la fin. Mais je vous ai déjà dit ça, mais aujourd'hui, vous avez des gens qui se plaignent de leur mémoire. Et je pense que dans cette salle, pas mal de personnes se plaignent de leur mémoire. Moi, je me plains de ma mémoire de façon régulière. Vous aussi, peut-être, madame, non ? Vous plaignez de votre mémoire, gentiment, tout le monde. Où est-ce qu'on a mis ses clés ? Où est-ce qu'on a mis son journal ? C'est quelque chose qui est tout à fait banal.
Comment s'appelle cette personne ? Bien sûr, ça arrive.
Ça arrive, voilà. Et on se pose la question par rapport à ce que je vous ai dit, finalement. Mais est-ce que finalement, vous nous avez parlé de cette phase très précoce, là, des troubles de mémoire qui seraient inauguraux. Mais attendez, mais si je me plains de ma mémoire, c'est peut-être que je suis déjà dans cette phase-là. Et peut-être qu'il va falloir que j'ai ces médicaments-là. Donc, pour faire vite, si vous voulez, je vais vous raconter par exemple l'histoire de cette patiente. C'est une vieille patiente, ça fait longtemps que je l'ai vue, mais je la trouve très, très spectaculaire. C'est une femme qui est très inquiète parce qu'elle a des troubles de mémoire progressifs portant sur l'effet récent. Elle est allée au cinéma, elle a emmené sa petite fille, et puis 15 jours après, elle lui propose d'aller au cinéma. Elle fait la même queue pour voir le même film qu'elle a vu 15 jours avant. Sa petite fille lui dit, mais attends mamie, on l'a vu il y a 15 jours, elle ne s'en rappelait plus. Donc je ne sais plus compter mentalement, j'oublie ce que je viens de faire, je rentre souvent dans une pièce sans savoir ce que je viens y chercher, je donne un rendez-vous à ma fille, je lui dis j'arrive, je n'y vais pas, lorsqu'elle me rappelle, j'avais totalement oublié le rendez-vous et sa raison, je ne connais plus un document que j'ai rédigé, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait la veille, etc. Donc vous voyez, elle est très très inquiète pour sa mémoire. Et pourtant, ces tests de mémoire sont tout à fait normaux. Vous voyez, elle a le MMS, j'en ai parlé tout à l'heure, elle a 29 sur 30. Donc il y a une sorte de contraste entre la plainte sévère de la mémoire et la normalité des tests. Donc c'est compliqué tout ça, c'est compliqué. Mais ça veut dire, si vous voulez, que, et on l'a démontré dans ce petit schéma en bas, vous voyez, c'est l'intensité de la plainte. En haut, vous avez cette courbe marron, où vous avez des gens qui se plaignent beaucoup, beaucoup de leur mémoire. Et bien, ce sont des gens qui étaient déprimés et qui avaient un MMS à 30 en moyenne, ou 29 je crois. Et en bas, vous avez une courbe plate de gens qui ne se plaignent pas du tout. Ce sont des gens qui avaient la maladie d'Alzheimer. Car dans la maladie d'Alzheimer, et vous le savez, si vous avez des proches qui sont atteints de cette maladie, ils ne se plaignent pas, ils ne sont pas conscients de leurs difficultés. Donc vous avez une sorte de paradoxe qui est que le fait de se plaindre de sa mémoire est plutôt bon signe.
Et j'avais Je crois que ça va rassurer beaucoup de monde là déjà.
Et j'avais tendance à dire, plus on se plaint de sa mémoire, moins on a de risque d'avoir la maladie.
C'est quand les proches se plaignent de la mémoire que là, effectivement, ça vaut le coup de mener des expériences, parce que des tests, parce que c'est vrai qu'il y a aussi plein d'autres explications à ces pertes de mémoire.
Voilà. Donc, combien de temps il me reste ?
Il reste une ou deux minutes avant de répondre aux questions.
Voilà. Donc, simplement pour vous dire que la plainte témoigne le plus souvent d'un trouble attentionnel, trouble dépressif, trouble anxieux, stress professionnel, prise de médicaments, trouble du sommeil, trouble vieillissement normal. Au cours du vieillissement normal, on a une altération de nos ressources attentionnelles, parfois cependant d'une affection neurodégénérative. C'est toute la difficulté. Donc, vous voyez, le trouble de mémoire, ça peut résulter de beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Et il faut donc différencier les troubles de l'attention et troubles de la mémoire. Et donc, voilà, il faut différencier. Et là, c'est la dernière slide, mais qui est importante. Pour bien comprendre, si vous voulez, que pour qu'une information soit restituée, il faut qu'elle passe par trois stades différents. Il faut qu'elle soit bien saisie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'enregistrement. D'accord ? Puis après, il faut qu'elle soit envoyée vers l'hippocampe pour être stockée dans le cerveau. Et puis après, il faut aller la récupérer, il faut aller la rechercher dans le cerveau, elle est dans le cerveau, il faut aller la récupérer. C'est ce qu'on appelle la restitution. Voilà. Et on a trois possibilités pour être schématique. Soit on a une difficulté de saisie parce qu'on a des troubles attentionnels, parce qu'on est dépressif, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a moins de ressources attentionnelles. Là, c'est le stockage, c'est la maladie d'Alzheimer, maladie d'hippocampe, on en a parlé. Et là, c'est le vieillissement. Vous voyez, c'est la difficulté à activer les stratégies de récupération. C'est ce qu'on appelle le syndrome du bout de la langue. Je sais que je sais, ça va me revenir, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas quand on me le demande, mais c'est 10 minutes après que ça me revient, etc. Mais ce qui est important, c'est que c'est dans la boîte. Ce qui est important, si vous voulez, c'est de confirmer que le stockage est fait. C'est ça la maladie d'Alzheimer, c'est un trouble du stockage. C'est ce paradoxe de ces familles qui vous disent, mais ça ne doit pas être bien grave, docteur, parce qu'il se rappelle très bien des choses anciennes. Il se rappelle très bien la date de son mariage, mais il se rappelle même le nom de sa maîtresse d'école. Ben oui, sa mémoire a toujours fonctionné. Mais est-ce qu'il se rappelle ce qu'il a fait hier? Mais non, mais d'accord, il se rappelle pas ce qu'il a fait, mais il se rappelle très bien de ce qu'il a. Donc sa mémoire est bonne? Non. Sa mémoire est bonne s'il se rappelle ce qu'il a fait hier. Et moi, les questions que je pose, c'est qu'est-ce que vous avez eu à dîner hier? Qu'est-ce que vous avez fait hier? Quand est-ce que vous êtes allé au restaurant pour la dernière fois? Des choses récentes. Et là, c'est là qu'il y a la difficulté, parce que l'information n'est pas mise en mémoire parce que l'hippocampe est cassée. Voilà, donc on a mis au point des tests, on a un projet qui nous permet d'avoir même un petit outil digital qui s'appelle Santé Cerveau, vous en entendrez parler. Simplement pour vous dire que la prévention est possible, on en reparlera peut-être dans les questions, ça on l'a montré, et que nous militons, Olivier de la Doucette et moi-même, pour des centres de prévention du vieillissement cognitif. Pourquoi ? Parce que comme la prévention est possible, comme on va avoir des médicaments qui vont arriver, il va falloir proposer, il va falloir avoir des stratégies claires à proposer à des gens comme vous qui allez un jour consulter ces structures en disant, écoutez, voilà, j'ai 65 ans, ma mère est actuellement hospitalisée par une maladie d'Alzheimer, je me plains, je suis un peu inquiet sur ma mémoire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc on n'est pas prêt à apporter ces réponses-là. Et ce sont des questions qu'on commence à nous poser et qu'on va nous poser dans les 5 ans qui viennent, parce que les médicaments vont arriver. Vous voyez, l'actualité, ça se bouscule. Donc il va falloir que l'on mette en place ces centres de prévention, parce qu'on a démontré, par exemple, que le fait de retarder ne serait-ce que de 5 ans l'entrée dans la maladie, on diminue de 50% le nombre des patients. Vous voyez ? Voilà, et donc nous, on est en train de monter un projet qu'on appelle le CERMAD. Vous voyez, on va suivre des gens, vous voyez, un sujet à stade précoce, un patient à risque, un sujet contrôle. On va les suivre, on va faire des cohortes. À partir de là, on va faire des bases de données. Et à partir de là, on va dégager des algorithmes de prédiction. Ce qui nous permettra après, lorsque des gens viendront nous voir, par exemple, monsieur, si vous venez nous voir dans ce centre, et vous nous dites, dites-moi, est-ce que j'ai un risque ? Eh bien, grâce aux algorithmes de prédiction qu'on aura mis en place, compte tenu de votre âge, compte tenu du fait que vous avez été sportif, du fait que vous ne fumez pas, du fait que vous n'avez pas d'hypertension artérielle ou que vous en avez, du fait que votre mère a ou pas une maladie d'Alzheimer, on aura un risque. On vous dira, vous avez 20% de développer la maladie dans les 20 ans. Bon, tranquille. Mais peut-être
tenir compte de tous les facteurs de risque et enseigner aux personnes à agir pour se protéger. Exactement. Parce qu'il y a tout un éventail de choses qu'on peut faire pour protéger notre cerveau.
Il y a des interventions qui sont soit de lutter contre des facteurs de risque, soit de mettre en route des traitements. Si vous êtes vraiment à très haut risque et qu'on a ces médicaments qui vont arriver et qui empêchent et qui dégradent les lésions, eh bien à ce moment-là, on vous les donnera. Et ça vous évitera d'en rentrer dans la maladie. Donc vous voyez, c'est une approche extrêmement moderne qu'on vous propose. Tout à l'heure, Olivier de la Doucette disait, mais peut-être, espérons que dans... Il y avait un point d'interrogation. Moi, je suis convaincu, sur la base de ça, que dans quelques années, on dira peut-être pas, j'ai guéri de la maladie d'Alzheimer, mais on m'a empêché d'avoir la maladie d'Alzheimer.
Très bien. Alors, beaucoup de questions. On va attaquer. Donc, le fameux médicament dont vous venez de parler, est-ce qu'il faudra le prendre tout au long de la vie ?
C'est une question intéressante. On pensait initialement que ces anticorps monoclonaux, il faudrait les prendre de façon régulière, mais comme ils sont tellement efficaces. Sachez qu'un des laboratoires qui s'appelle Lilly, qui développe le donanemab, a décidé de refaire, dans une étude qui dure un an et demi, a décidé de refaire un PET scan à un an pour vérifier s'il y avait encore des lésions. Car s'il n'y a plus de lésions, ils vont maintenir les patients dans l'étude, mais ils vont arrêter le traitement, car ils se posent la question de savoir si finalement ce n'est pas un one shot. On traite pendant un an, les lésions disparaissent, et il n'y a plus de raison de traiter puisqu'il n'y a plus de lésions. Donc on est peut-être dans un schéma où il n'y aura pas besoin d'avoir des traitements.
On continue, donc ouais. ça reste des questions. Alors sur les tests, beaucoup de questions. Que penser d'un test proposé par les laboratoires d'analyse contre la maladie d'Alzheimer pour au coût de 150 euros? C'est une analyse sanguine.
Alors, je suis formellement opposé. Merci. À ces tests. Formellement opposé à ces tests. On les connaît, ce ne sont pas des tests fiables. De toutes les façons, il n'y a aucun test validé au niveau européen. Aucun test validé au niveau européen dans le sang. Il y a juste une formule d'Abeta qui vient d'être autorisée à la FDA américaine. Aucun test n'est validé. Aucun test ne doit être réalisé en France. Ils sont tous potentiellement faux et surtout gravissimes, parce que si on vous donne... Parce que vous allez avoir une information, on va vous dire...
C'est une bombe qui peut vous exploser dans votre vie.
On va vous dire, exactement, vous avez, je sais pas, 65 ans, vous faites le prélèvement et on vous répond, argument en faveur d'une maladie neurodégénérative.
Qu'est-ce que je fais de ce résultat?
Qu'est-ce que vous faites de ce résultat?
Alors, beaucoup de questions sur les tests. Est-ce que les tests, on peut les pratiquer quand on est un enfant d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, et à partir de quel âge est-ce que c'est possible?
Est-ce que c'est des tests cognitifs ou des tests sanguins?
Je crois que c'est le test sanguin dont on parlait.
Alors, attention.
Les deux, en fait, peut-être.
Tout ce dont je vous ai parlé, ce sont des tests, c'est une vision... C'est la science-fiction, on n'est pas...
C'est la recherche.
C'est la recherche, on n'en est pas là aujourd'hui. Ces tests ne sont pas validés, donc il n'est pas question de les réaliser, et encore moins si vous n'avez pas de symptômes.
Okay, pour l'instant, pas de tests sans symptômes.
Je voudrais juste vous raconter une histoire, ça va prendre deux minutes, mais pour que vous compreniez bien les risques qu'il y a à réaliser ces tests s'il n'y a pas de symptômes. Une femme de 55 ans exactement, professeure de collège, me téléphone un jour en état de détresse absolue parce que elle me téléphone début janvier parce que à la fin décembre on lui a annoncé qu'elle avait la maladie d'Alzheimer. Elle me raconte son histoire au téléphone. Elle est, je pense, une femme qui me paraît pas atteinte d'une maladie très avancée. Je lui dis, écoutez, venez me voir, je la sentais désespérée, venez me voir rapidement, je la vois fin janvier. Très bien. Et là, elle rentre dans mon bureau, dès qu'elle rentre, je suis absolument rassuré, elle me raconte l'histoire très précisément, voilà. Je suis fatigué, vous savez, je ne sais pas si vous êtes dans cette situation, mais je crois que c'est un métier difficile. Elle est un peu épuisée, un peu en burn-out, elle va voir un neurologue en ville, qui lui fait faire des tests probablement, et puis devant son inquiétude, lui dit faites un examen, ce qu'on appelle un PET, pas un PET amyloïde, mais un PET FDG. Très bien, qu'importe.
L'imagerie médicale.
Le résultat lui revient, elle téléphone à ce neurologue qui partait le jour même, dans l'heure, au sport d'hiver. Donc il lui dit, lisez-moi le résultat, et le résultat c'est anomalie discrète, éventuellement compatible avec un processus dégénératif. Il lui dit comme ça au téléphone, c'est que vous avez certainement une maladie d'Alzheimer. Il raccroche.
Merci docteur.
Il part au sport d'hiver, très bien. Elle passe un Noël, vous imaginez, n'en parle pas à sa famille, elle est désespérée, mais quasi suicidaire, elle s'est été déprimée par ailleurs. Donc, je la vois, je la rassure tout de suite, je dis, écoutez, vraiment, je suis sûr de moi, je lui fais faire un petit test qu'on a mis au point, je suis sûr de moi, vous n'avez absolument, bon, je sens qu'elle est très préoccupée, je lui dis, bon, alors on va vous hospitaliser, on va vous faire un hôpital de jour, vous rentrez le matin, vous sortirez le soir, et je mets sur la feuille, faire des tests pour la rassurer, bon, ponction lombaire, si anomalie, s'il y a des anomalies au test, là, pour le coup, il faut quand même que, comme il y a une petite anomalie en neuroimagerie, il faut quand même qu'on vérifie que ce n'est pas, malgré tout, une maladie d'Alzheimer, s'il y a des anomalies au test. Très bien. C'était un mardi, je passe quand même voir, parce que ça m'intéressait, je passe là-bas, je vois qu'elle est allongée sur le lit. Mais qu'est-ce que... ben, on m'a fait la ponction. On m'a fait la ponction lombaire. Je vais voir l'interne, je lui dis, mais j'ai fait la ponction lombaire. Donc c'était anormal, elle avait des tests anormaux. Et l'interne me dit, ah non, non, mais comme vous aviez marqué ponction lombaire, non, j'ai dit, ponction lombaire, si anomalie. Mais si c'est normal, on ne va pas lui faire de ponction lombaire. On n'a pas besoin de savoir si elle a les lésions, puisqu'elle est normale.
Donc elle a été doublement rassurée, mais elle n'aurait pas eu besoin.
Attendez, comment vous faites alors? Les tests étaient normaux, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, vous êtes normal. Sauf que la ponction lombaire était faite, et une semaine après, j'allais recevoir les résultats de la ponction lombaire. S'il y avait des lésions, qu'est-ce que je lui dis à cette femme? Je lui dis, vous êtes normal, vous avez les lésions. C'est ingérable. Donc, la règle... Bon, il se trouve effectivement
que tout était normal.
Je l'ai doublement rassuré. Mais ça veut dire ne jamais faire ça. Parce que, évidemment, c'est une information que vous ne pouvez pas interpréter, vous ne pouvez pas analyser le fait d'avoir des lésions. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc, soyons extrêmement attentifs à ça. Sur le plan éthique, ne jamais, jamais faire une recherche de biomarqueurs chez quelqu'un qui n'a pas les symptômes de la maladie.
Alors, on va répondre rapidement aux autres questions parce qu'on est en train de manger le temps de l'intervention suivante. Vous avez parlé du remboursement de la sécurité sociale pour l'IRM très spécifique. Donc, c'est dans le cadre de la recherche. Quelles sont les conditions pour y avoir droit?
L'IRM, il n'y a aucun problème. L'IRM, elle se fait automatiquement. Cette IRM, elle se fait par n'importe quel neuroradiologue.
Le PET scan spécifique, hein, c'était bien ça qu'on parle.
Le PET scan, c'est des dossiers qu'il faut faire. Non, ça ne se fait pas en pratique. Ça.
Victime d'un AVC, suis-je plus susceptible d'Alzheimer?
Victime d'un AVC, oui. On a vu qu'il y avait peut-être un peu plus de dégénérescence, de maladie générative de type Alzheimer après AVC pour deux raisons. Soit parce que il y a une décompensation du processus pathologique qui s'emballe à l'occasion de l'AVC, soit parce qu'il y a des petites lésions vasculaires associées et qui vont décompenser la symptomatologie dégénérative associée.
Est-ce qu'on peut avoir Alzheimer sans lésion cérébrale?
Non.
Est-ce que le cerveau peut compenser une fois que les symptômes sont apparus et stabiliser la maladie?
C'est l'impression qu'on a. On suit ces patients qui rentrent dans la maladie avec un syndrome amnésique relativement discret. Eh bien, cette phase prodromale, ce qu'on a appelé la phase prodromale, on se rend compte qu'on a des patients qui restent très longtemps avec un syndrome amnésique isolé. On a même identifié une forme particulière qu'on appelle le LATE, L-A-T-E, c'est une sorte de sclérose hippocampique, vous voyez, c'est une atteinte de l'hippocampe qui serait isolée. Et on peut avoir des patients qui restent comme ça 18 ans, avec un syndrome amnésique relativement stable.
Et est-ce que vous pouvez, pour terminer, rappeler le nom du médicament, le nouveau médicament là, qui a fait la une de l'actualité il y a quelques semaines?
C'est le lecanemab. Lecanemab.
Un grand merci, Bruno Dubois. Un grand merci à vous pour toutes ces explications. C'était long, mais c'était très complet. Et vous avez un talent pour nous rendre scientifiquement compatibles.